I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue sur Terre, ma grande. C'est l'horreur, tu vas te régaler.
Ah, c'est pas faux.
Non! Non!
Mon pinaise, oui!
Pas ça! Non!
Dites mon nom.
Non! Non! Non!
Vous appelez Internet et leur demandez de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes.
Merci, 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 merci. Écoutez, je dirai pas loin, comme ça, si c'est l'apocalypse ce soir, bip, bip.
Bonjour, c'est Clémence. Bienvenue dans We Love Series, le podcast signé We Love Cinéma qui s'intéresse aux séries cultes d'hier et d'aujourd'hui, qu'elles soient diffusées sur le petit écran ou sur les plateformes de streaming. Dans la collection du moment, on fait le point sur Kaamelott, la série culte d'Alexandre Astier. La semaine dernière, dans le premier épisode, on évoquait son évolution, son succès populaire et évidemment, on a parlé du film Kaamelott premier volet, sorti en salle le 21 juillet. Aujourd'hui, on va s'intéresser au papa de la série, le génial Alexandre Astier, et à l'univers bourré de références pop qu'il a façonné. Pour ce deuxième épisode, j'ai le plaisir de retrouver Rafik Djoumi. Salut Rafik.
Salut Clémence.
Alors Rafik, pour tout de suite se plonger dans l'ambiance, je te propose d'écouter cet extrait de la bande originale du film Kaamelott premier volet. Ça s'appelle « Désenchevêtrement ». Alors, comme pour toutes les autres musiques de la série, on l'évoquait dans le premier épisode, c'est Alexandre Astier qui s'occupe de la composition et de l'orchestration. Mmh. Et cette BO, c'est un peu particulier. Hein. C'est un consultant orchestration copiste qui s'est chargé de réaliser les partitions pour chaque instrument. Et la bande originale du film est interprétée par les musiciens de l'Orchestre National de Lyon.
Tout à fait. Et le disque est carrément édité chez Deutsche Grammophon, qui est le label de prestige de la musique classique. Donc, c'est quand même pas rien. Enfin, même les grands compositeurs de musique de film n'ont pas droit à un tel honneur. Et ça rejoint ce qu'on disait dans la précédente émission, l'importance de la formation musicale d'Alexandre Astier dans sa façon de travailler, dans sa méthode. On n'avait pas dit, mais le livre 1 de Kaamelott avait pour générique non pas une série créée par Alexandre Astier, mais une série forgée par Alexandre Astier. Ça a changé ensuite. Mais cette idée de forge, elle est pas innocente, bien sûr, à faire référence au Moyen-Âge. Mais aussi, elle suggère, c'est effectivement l'idée de travailler la matière. Donc, c'est quelqu'un qui est habitué à ça et en tant qu'orchestrateur, et là, on l'a bien entendu dans la richesse de l'orchestration, il est très attaché aux différentes matières. Et on choisit un instrument en fonction vraiment d'un timbre très particulier et du coup, de l'émotion qui se dégage de ce timbre-là. On pourrait presque se passer de mélodie, en fait. On pourrait n'avoir que de l'orchestration sur un morceau comme ceci. Ça ferait quand même passer l'émotion, en fait.
Et alors, la bande originale de ce film a une particularité. Est-ce que tu la connais?
Non, tu vas me l'apprendre.
Elle a été jouée alors que le montage du film n'était pas finalisé. Donc, le film, en général, ce qui se passe, c'est que le compositeur va se caler sur les images. Mmh. Et va rythmer son score de cette manière-là. Là, finalement, c'est un petit peu l'inverse. Donc, la musique a été écouter comme un concert sur lequel le film a été monté.
Tout à fait. Alors, c'est pas forcément nouveau dans l'histoire du cinéma. Il y a un film qui, à mon avis, Alexandre Astier a toujours un petit peu dans un coin de sa tête quand il écrit, un film qui s'appelle Conan le Barbare, hein, un grand film d'heroic fantasy, dont la partition de Basil Paul Doris avait été composée avant le film, et même enregistrée avant, puisque là, carrément, ils étaient jusqu'à l'écouter sur certaines scènes de plateau. Mais cette idée que le film, la rythmique du film doivent s'adapter à la rythmique musicale, elle fait sens, parce qu'en réalité, le cinéma et la musique sont des arts extrêmement jumeaux, puisque ce sont des arts qui travaillent sur la temporalité.
Et c'est vrai qu'on l'a dit, Alexandre Astier a étudié les deux, donc il est musicien, il a fait le conservatoire et l'American School of Modern Music à Paris, mais il a fait une formation de théâtre en parallèle, donc les deux étaient vraiment intimement liés. Alexandre Astier, bah, c'est l'homme aux mille casquettes, on l'a dit, compositeur, orchestrateur, scénariste, metteur en scène, réalisateur, et il a sa méthode bien à lui, hein. On sait qu'il ne fait quasiment aucun casting. Par exemple, il a imaginé ses personnages directement pour les acteurs qui avaient accepté de travailler avec lui. Mm-hmm. On en parlait dans l'épisode dernier, par exemple, le Franck Picchio qui incarne Perceval à l'écran et qui a vraiment un rôle sur mesure qui colle.
Il est juste parfait. J'ai plus le numéro de l'épisode, mais effectivement, je sais qu'il y a un épisode où il se pose la question de savoir qui est ce Provençal, le Gaulois, dont tout le royaume parle, avant de réaliser que c'est Perceval qui ne sait pas dire son nom. Et la façon avec laquelle Picchio le joue quand il explique que non, bah c'est lui, en fait, et bah, parce qu'il s'appelle comme ça, etc. Et donc, il se met à bafouiller et du coup, à mal donner son nom et de réaliser que c'est lui qui est à l'origine de cette bourde. Il y a un tempo de comique qui est juste fabuleux. Moi, c'est un truc que, merci le DVD, parce que là c'est un truc que j'ai regardé 4 ou 5 fois juste pour le voir, le refaire à nouveau, quoi. Donc oui, pour ça nécessite effectivement une écriture particulière. Et en plus, j'ai cru comprendre qu'Astier ne mettait pas les raccourcis qu'on a dans le langage. Il laissait ça au comédien. C'est-à-dire, lui, il écrit dans un français qui se veut parfait, pour justement, sur le plateau, travailler les allitérations, les contractions, etc., avec les comédiens.
Et il ne fait jouer que des personnes qu'il a déjà vu jouer sur scène avant. Dans le lot, dans la grande famille Kaamelott, il y a toute une partie de sa propre famille de sang, puisque donc il y a son père, Lionel Astier, qui incarne son beau-père dans la série, Léo Dagan, Joël Sevilla, sa mère, qui incarne Dame Célie.
Et qui a écrit quelques épisodes aussi.
Tout à fait. Il est le demi-frère de Simon Astier, qui joue Yvain. Sa mère, la mère d'Yvain, José Drevon, incarne Igerne, la maman d'Arthur. Bon, on rentre dans de la généalogie compliquée là, mais en tout cas, voilà. Et 4 de ses 5 enfants ont aussi participé à Kaamelott pour jouer des petits rôles, des rôles secondaires d'enfants, mais en tout cas, ils apparaissent.
Oui, bah c'est clairement une petite troupe. Alors après, voilà, il y a aussi Serge Papagallic, qui est, je pense, assez important, parce que c'est sa mère qui lui a fait découvrir le théâtre de Papagallic, qui est un théâtre très très proche du peuple et des paysans, et donc c'est pas un hasard s'il joue le rôle du paysan entre guillemets syndicaliste, puisqu'il y a tout un rapport aussi via sa mère et via Serge Papagalli, donc on en parlait dans la première émission, un rapport à la comédie italienne, au cinéma italien. Je pense notamment à toute la série des comédies de Toto, qui sont pas très connues en France, mais dont certaines se passaient à des époques différentes, mais qui étaient toujours un regard sur l'époque moderne via des pages d'histoire. Et donc, il n'était pas rare d'avoir un Toto franciscain, par exemple, au Moyen-Âge, qui, en fait, se foutait de la gueule de l'Église des années 60, quoi. Et donc, l'humour décalé, l'idée de reprendre dans Kaamelott, voilà, ces grands mythes, ces grandes légendes, pour leur faire parler le phrasé d'aujourd'hui, et avec les préoccupations d'aujourd'hui, c'est pas non plus quelque chose de très éloigné de cet héritage de la comédie italienne. Et Papagalli, je crois que j'ai la citation quelque part, voilà, il disait « Je pratique la comédie italienne un peu comme Alexandre, qui est d'origine italienne. Je rends hommage à la base à tout ce petit peuple de la paysannerie française. Comme le cinéma italien des années 60, la base est un sujet grave, et puis la façon d'en parler, elle, est drôle et burlesque. »
Et alors, en humour burlesque. Là, on va en arriver aux références, hein, aux références qu'Astier affectionne. Donc là, on est là pour parler de pop culture. Les Monty Python, évidemment, on ne peut pas,
on peut pas passer à côté.
Qui eux aussi, à leur manière, ont traité l'histoire arthurienne et des événements, une légende historique de manière décalée, de manière absurde.
Et en même temps, de manière érudite. Alors ça, c'est un truc dont Astier parlait dans les bonus du livre 1, je crois, et qui est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'en fait, les mythes arthuriens, il n'y a pas de texte canon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un truc de référence et le reste ne serait que des inspirations ou des variations. Non, en réalité, le mythe arthurien est un mythe qui se construit à travers les époques. Il y en a un qui va parler d'Excalibur, un autre qui va parler du Graal, un autre qui va parler de Guenièvre et Lancelot, et tout ça peut, au fil des siècles, finit par donner une légende vaguement cohérente dans l'esprit du public, mais se réinvente sans cesse.
Il y a une soixantaine de livres, hein, c'est ça?
Mais il faut même rajouter toutes les adaptations qui nous sont plus proches, puisque justement, il n'y a pas de différence, je dirais, d'importance, de hiérarchie. Geoffrey de Monmouth, Wes, Chrétien de Troyes, en fait, sont étudiés par les universitaires de la même façon que les Monty Python. D'ailleurs, les Monty Python, ils rentrent dans le canon des mythes arthuriens. À Oxford, on étudie Sacré Graal. Et on étudiera également le Camelot d'Alexandre Astier. Et donc, il en est tout à fait conscient quand lui travaille, qu'il est en train de s'inscrire, en fait, dans cette tradition, dans cette lignée. Donc, en fait, il est pas là pour se foutre de la gueule des mythes. Il est pas là pour tout faire péter. Il est là, au contraire, pour nourrir ces mythes préexistants en respectant les règles et en les questionnant. Et donc, à chaque fois, à travers l'humour de la série, en réalité, on a des petites questions qui sont posées. Par exemple, il y a un épisode où Arthur s'étonne de savoir que dans les ouvrages, on parle de lui comme étant le sanglier de Cornouailles. Il trouve ça complètement con, parce qu'il trouve que c'est un animal complètement con. Et il a une engueulade avec Merlin, mais qui en fait est une engueulade d'érudit. Parce que Merlin, il représente une certaine façon de considérer le nom par rapport à l'animalité telle qu'elle était pratiquée par les premiers Celtes, etc. Là où Arthur, lui, il est plus du côté des gens modernes, pour qui le sanglier, c'est un cochon. Donc, ils peuvent pas s'entendre sur le caractère, entre guillemets, classe de ce nom. On parlait dans le livre 1 de Perceval qui suggère que le Graal, c'est un bocal à anchois. Mais la vérité, c'est que le Graal, personne sait ce que c'est. La tradition récente a retenu l'idée du Graal comme étant celle d'une coupe, mais en réalité, chez Chrétien de Troyes, c'est pas du tout une coupe, c'est un plateau, c'est une corne d'abondance. Donc ça peut être n'importe quel ustensile, en fait, puisque c'est d'abord et avant tout un symbole. Donc quand Perceval fait son discours en expliquant qu'un bocal anchois, c'est beaucoup plus pratique pour conserver le sang longtemps, il a raison, en fait. Il fait un travail d'érudit. Donc tout ça, c'est jamais gratuit, en fait. C'est drôle, toujours, parce qu'il y a un côté prosaïque dans la façon avec laquelle c'est présenté au public, mais en réalité, ça questionne le mythe très profondément.
Et il y a quelque chose d'intéressant aussi, c'est que on dénote l'anachronisme de la série, mais c'est pas quelque chose de nouveau, justement. Chrétien de Troyes, à son époque, a donné à la légende arthurienne des idéaux qui étaient ceux de son époque. Tout comme Arthur dans Camelot est très progressiste, va chercher à libérer les esclaves, va avoir une démarche et se fait épinglé par son entourage qui ne comprend pas, parce qu'en fait, il est en avance sur son temps.
Il est en avance sur son temps, tout à fait. Mais oui, il est en contact avec les dieux, donc forcément, il sait ce qui va se passer. Après, dans les influences pop culturelles, il y a un film qui est aussi très important, notamment pour les comédiens, parce que l'entourage d'Astier n'est pas forcément aussi nerd et geek qu'Astier lui-même. C'est le film Excalibur, qui est quand même une adaptation reconnue comme assez merveilleuse des mythes arthuriens et dans lesquels on a beaucoup d'éléments. Et donc, pas mal de comédiens se sont basés. Je pense que le comédien qui joue Merlin, par exemple, dit qu'il s'est quand même basé sur le personnage de Merlin du film de John Boorman. Donc, il y a cette référence qui est une base de travail, mais c'est évidemment pas la seule. Et comme on l'a dit et vu, Astier connaît sa légende arthurienne. C'est-à-dire, on sent que c'est un gros bosseur et qu'il a vraiment lu en détail et que du coup, en plus, ça l'inspire. D'ailleurs, que quand il tombe justement sur un truc concernant le sanglier de Cornouailles, bah lui, ça lui donne une idée de sketch, quoi. On parlait de Perceval de Galois qui arrive pas à se souvenir de son nom. C'est chez Chrétien de Troyes l'idée que en fait son nom lui est donné alors qu'il vient d'oublier tout ce qui lui est arrivé et tout d'un coup il s'aperçoit qu'il s'appelle Perceval le Galois. Donc c'est vrai tout ça et encore une fois ce n'est pas hasardeux. Et donc, dans ce travail du mythe, il y a aussi une forme, je dirais, d'intertextualité qui s'établit progressivement dans la série. D'abord avec un personnage qui est très important, qui est le père Blaise, qui est là pour prendre les notes de la table ronde, donc, et donc d'inscrire la légende. Et évidemment, il est... Alors, le gag, c'est qu'il est toujours bien emmerdé parce que ce qu'on lui amène, c'est... Voilà, il espérait un combat contre un serpent géant et en fait, il s'avère que c'est une anguille et il ne sait pas comment il va s'en sortir pour rendre ça... Voilà, pour faire ses enluminures. Mais en fait, le père Blaise, il est aussi là pour dire que, bah oui, la légende telle que nous, on la connaît, elle s'est peut-être construite à travers des gens comme lui. Et au fond, au départ, c'était peut-être juste une grosse connerie, en fait.
C'est un personnage très méta, finalement.
Exactement. Et ce caractère méta, donc, c'est pour ça que je parle d'intertextualité, il va prendre vraiment effet dans quatre épisodes qui s'appellent la poétique, qui sont étalés entre le livre 3 et le livre 4. Où les personnages se posent la question de ce qu'ils sont en train de raconter, puisque on a, je crois que c'est Bohort qui raconte des aventures absolument extraordinaires avant de s'apercevoir qu'il fallait vraiment qu'elles se soient produites. c'est-à-dire qu'en fait, il était en train d'imaginer tout et personne lui avait dit qu'il fallait que ce soit vrai. Là où au contraire, Perceval, il est toujours en train de raconter un truc complètement idiot qui lui est arrivé et il essaie de bien faire parce que c'est ce qui définit Perceval, c'est qu'il a vraiment envie de bien faire, mais il sait pas comment donner du corps à ses récits. Et donc, du coup, Astier va essayer de l'aider en lui expliquant comment on raconte une histoire, comment on amène de l'intérêt chez le public. Et ces épisodes, on se retrouve à citer Aristote, etc. Enfin, je vois, ça va assez loin. Mais en même temps, ce qu'ils sont en train de faire dans ces épisodes, c'est qu'ils sont en train de décortiquer l'écriture de la série. Donc, et ça, pour moi, c'était vraiment très, très nouveau dans une série française d'avoir un tel effet d'intertextualité, je vais y arriver.
Et l'écriture de la série, justement, on sait qu'Alexandre Astier a assisté à une masterclass de Christopher Vogler. Alors, on va le présenter pour les gens qui
brièvement. Ouais, Christopher Vogler, c'est un gars qui a amené à Hollywood une version, on va dire, compressée de Joseph Campbell. Joseph Campbell, c'est un érudit qui faisait de la mythologie comparée et qui est notamment l'auteur de ce bouquin très connu qui est le héros aux mille visages, qui en fait étudie le concept du héros à travers toutes les civilisations, toutes les cultures et tous les récits pour réaliser qu'en fait il n'y a qu'un seul cycle héroïque qui se répète de siècle en siècle.
C'est le monomythe.
Qu'on appelle le monomythe, tout à fait. Comme George Lucas s'est directement inspiré de ça pour l'écriture de Star Wars, et donc a contribué à faire connaître Campbell dans les milieux hollywoodiens, sauf qu'à Hollywood, ben, les producteurs, ils n'ont pas le temps de lire, donc il leur a fallu des gens pour leur résumer un peu ce qu'il y avait là-dedans, et Vogler a au départ servi à ça. Il était là pour faire la transition entre un ouvrage qui est quand même assez universitaire et l'écriture scénaristique. Et il a notamment contribué à faire réécrire des films, le plus célèbre étant Le Roi Lion, qui n'avait absolument rien à voir avant que Vogler ne vienne à la rescousse, voilà, pour y amener un petit peu de Joseph Campbell.
Et donc Alexandre Astier a suivi une masterclass de
tout à
Vogler.
Fait. Et le chemin vers Vogler d'Astier, on peut le tracer. Hein, c'est Star Wars, encore une fois. C'est pas un secret pour personne que Star Wars est absolument essentiel dans la carrière d'Alexandre Astier. Et du coup, quand on s'intéresse à Star Wars, on s'intéresse à Campbell et évidemment, on en vient à connaître Christopher Vogler. Et si tu as envie de te mettre à l'écriture scénaristique, et ben c'est naturel que tu ailles vers lui. Et donc, il a organisé effectivement cette masterclass à Lyon. Il a donné aussi lui-même des interviews pour expliquer un peu ce qu'était le principe d'écriture selon ce principe du monomythe.
Alors, on peut peut-être en dire deux mots, justement, expliquer rapidement quelles sont les étapes de ce cycle qu'on retrouve donc à la fois dans Kaamelott, mais aussi dans Star Wars et dans beaucoup d'autres récits.
Ben le monomythe, en fait, c'est tout simplement les différentes étapes nécessaires qu'un héros va devoir franchir, qui vont le faire passer en gros de son petit village d'origine, de là où débute son aventure, qui est un monde replié sur lui-même, l'arrivée d'un signal venu du monde extérieur, souvent sous la forme d'un sorcier, qui s'appelle Gandalf ou Morpheus ou Obi-Wan Kenobi.
C'est l'appel de l'aventure.
Le héros refuse dans un premier mettant cet appel, mais en fait le simple fait que ce signal soit venu à lui a déjà déclenché des forces qui arrivent vers son village, hein, les cavaliers noirs ou l'agent Smith, il est déjà menacé, donc il va être obligé de partir dans sa quête, de franchir ces personnages qu'on appelle les gardiens du seuil, hein, donc les Nazgûl par exemple, ou les Stormtroopers pour Luke, les gardiens du seuil, et après avoir franchi ce premier seuil, donc rentrer dans un univers qu'il ne connaît pas, qui est l'inconnu, qui va être le ventre de la baleine, c'est-à-dire l'univers où les formes de son monde connu en fait se recomposent, ainsi que sa propre identité. Bon, bref, il y a en tout 12 étapes, les plus connues sont par exemple la réunion au père, qui est vers la fin du récit, où le héros va être confronté à ce qui est l'image intérieure du père. Alors chez Luke, ça devient littéralement son vrai père, mais en fait, ça peut être d'autres personnages. On a la tentatrice, la déesse mère. Il va dans sa quête récupérer un bien, on va dire, qui va ensuite ramener au début de son aventure, c'est-à-dire à son village. Il va transformer le monde en ramenant ce bien qu'il a été cherché dans son aventure. Et ce cycle du monomythe, en fait, l'idée de Joseph Campbell, c'est que quand on raconte ces histoires-là à des gens, on fait travailler ça en eux. Puisqu'en fait, c'est ce qui se passe à l'intérieur de l'auditeur ou du spectateur. C'est-à-dire qu'il est en train de vivre ça. Il est parti de son petit quotidien, de son ventre, pour progressivement monter dans des sphères supérieures, s'aventurer dans l'inconnu, dans l'effroi, se confronter à lui-même, justement à l'image du père, etc., pour ensuite en revenir grandi et donc ressortir du récit en ayant l'impression d'être devenu maître de ces deux mondes. Donc c'est un très, très mauvais résumé, mais résumé quand même de ce que peut être le monomythe. Effectivement, c'est au cœur de l'écriture scénaristique de Kaamelott, puisqu'il y a celui qui suit le cycle héroïque, mais il y a aussi celui qui le refuse. Anakin Skywalker dans Star Wars, c'est celui qui a refusé de franchir ces étapes et ce cycle, et il devient du coup le Vador pour cette raison-là. Et de la même façon, Lancelot joue le rôle d'Anakin, hein, dans la série Kaamelott. C'est quand même au départ un personnage brillant, un grand chevalier, plein de noblesse, qui va devenir le big vilain de l'histoire, justement par sa rigidité, son refus de s'aventurer dans des formes qui lui sont inconnues, quoi.
Et il y a quelque chose d'intéressant par rapport à ce monomythe, à ce cheminement du héros, c'est que si on regarde un petit peu la chronologie de la série Kaamelott et du film, on se rend compte qu'en fait toute la série, ce n'est que le refus d'Arthur de se lancer à la découverte de ce nouveau monde. Ouais. Et le cheminement du héros, ce qu'il va faire à partir du moment où il accepte l'aventure, il accepte enfin l'appel de l'aventure, c'est dans les films qu'on va le retrouver. Donc en fait, on est encore en attente de ça.
On est encore en attente, tout à fait. Bah, après, il n'y a pas... et ça, c'est sur les conseils de Vogler. Hein. C'est le monomythe de Joseph Campbell, ce n'est pas une recette de cuisine. C'est une méthode. D'ailleurs, je crois que Astier disait quelque chose à propos de ça. Il disait « La méthode ne fait pas de toi un mec qui écrit bien. La méthode fait de toi un mec qui écrit propre. La méthode fait de toi un mec qui comprend ce qu'il fait. » Donc, c'est vraiment... Voilà. C'est juste histoire de dire... Maintenant, tu sais que ça existe, tu sais que c'est là. Donc, si dans ton travail, tu vas retrouver ces éléments, ne t'étonne pas. Sache que t'es pas dans une mauvaise direction, en fait. Le Vogler, il répète sans arrêt, laissez les mythes vous nourrir. Parce que de toute façon, ils sont là. Le monomythe, il n'a pas été inventé à l'époque de George Lucas. Le monomythe, il date de Gilgamesh, 5000 ans avant Jésus-Christ. C'est quelque chose qui est propre à l'humanité quand elle se raconte. Donc, de toute façon, ces archétypes, ils vont revenir naturellement dans ton écriture. Donc, Astier, il est en train d'écrire son histoire, sa vision d'Arthur. Il y met ses propres obsessions, mais régulièrement, il va savoir quand, voilà, quand il va tomber sur un pépin, que si, voilà, il a suivi la bonne, le bon chemin, il a appliqué la bonne méthode, il aura la bonne, la solution pour se, voilà, pour se sortir de ce mauvais pas. Donc, c'est vraiment une question de méthode et de travail. Et on retrouve là le caractère forgeron du musicien dont on parle depuis le début, quoi.
Et puis, si on regarde dans le détail l'arc narratif des autres personnages en dehors d'Arthur, bah, chacun va avoir aussi son propre cheminement à son rythme.
Oui.
Le personnage de Perceval aussi va prendre cette ampleur-là. Mmh. Lancelot, on en a parlé tout à l'heure. Et finalement, chaque personnage important a son propre arc narratif.
Exactement. Et là, on retrouve une autre influence absolument majeure de la série Kaamelott, qui est l'influence rôliste, et qui est quelque chose qui a été immédiatement repéré par les joueurs de jeux de rôle dès les premiers épisodes, mais il a fallu beaucoup de temps au public pour le comprendre, en fait. Alexandre Astier considère que Donjons et Dragons, c'est le meilleur jeu du monde. En tout cas, le principe du jeu de rôle. Et pour quelqu'un qui est à ce point amoureux du théâtre, du récit, des comédiens, voilà, c'est évident que l'idée que autour d'une table puisse se recréer spontanément un récit nourri par tout le monde, nourri par les particularismes, mais un récit qui est encadré par des règles, et c'est là où on retrouve justement la question de la méthode. On sort pas de ces règles-là parce que ces règles-là, c'est elles qui vont nous permettre de transcender les limites a priori fixées. Et donc il y a évidemment déjà plein de références à la culture rôliste dans Kaamelott, hein. Je pense à un épisode où t'as Léo Dagan qui propose une quête pour aller buter des Skaven, qui
là,
sont
voilà,
des créatures de Warhammer, voilà, et toujours Warhammer en fait, avec Elise et Moon qui joue le rôle du répurgateur, donc voilà, ça c'est des trucs pour ceux qui étaient attentifs. Mais en fait, voilà, il suffit de s'imaginer, on est autour d'une table de jeu de rôle. On a trois personnages, donc le maître de jeu et deux gars qui savent pas forcément très bien jouer. Et je vais vous faire la scène. Hein. Alors, t'en as un qui demande au maître de jeu, j'ai une question un peu idiote là. Est-ce qu'il est possible de dormir en mode berserker ? Maître de jeu, dormir en mode berserker, mais pourquoi faire ? Quand on entre dans une fureur guerrière, c'est pour faire la guerre, pas pour dormir. Ouais, bien sûr, mais si on doit récupérer et qu'on est encore en fureur guerrière, il se passe quoi ? Bah, c'est une fureur guerrière. On ne dort pas pendant une fureur. On est furieux et on fait la guerre. Et là, t'as le troisième qui demande, bah, il se passe quoi si on mange un truc? Bon, bah là, tu les as. T'as Arthur, t'as Perceval et t'as Caradoc autour de la table. Donc, en fait, quand on a vu les premiers épisodes avec ces chevaliers en train de parler de façon totalement prosaïque et débile de choses qui sont complètement délirantes, magiques, etc., évidemment, les rôlistes se sont dit, mais en fait, c'est nous. On fait ça tous les soirs. Il a pas tellement eu besoin de leur faire du coup de coude pour que eux ils viennent à lui et qu'ils comprennent le chemin dans lequel ils s'étaient engagés.
Ouais, et puis il y a ne serait-ce aussi que un nombre quand même assez important d'épisodes qui traitent tout simplement de l'exploration de donjons.
Exactement, dont un assez fameux qui est, alors il y a eu deux épisodes qui s'appelaient Stargate. Bon, alors déjà le premier s'appelle Stargate, évidemment il fait référence à un film que a priori tout le monde connaît, et dans un autre épisode qui s'appelle Stargate 2, où ils sont dans un donjon et donc ils passent par cette porte, là on est carrément dans du haut niveau de geekerie, puisque le personnage de Perceval décrit ce qu'il voit de l'autre côté de cette Stargate, et il est littéralement dans une scène coupée du Retour des Jedi. Donc, c'est-à-dire un truc, pour savoir de quoi il s'agit, il fallait avoir lu la novélisation qui est sortie en 1983, dans laquelle cette scène était écrite, qui est la scène où Luke fabrique son sabre laser vert dans une hutte sur Tatooine. Et en fait, bah, en gros, le personnage de Perceval, il est dans cette hutte et il décrit ce qu'il voit. Il dit, il y a deux soleils devant moi, là, et puis je sais pas, il y a un truc, il y a un bibelot, et il ramène le fameux bibelot qui fait de la lumière verte, donc qui est un sabre laser.
Et puis, alors, effectivement, il ramène ce sabre laser. C'est pas le seul clin d'œil à savoir ce qu'il y a dans la série. Hein.
Il y en a
énormément. En fait, on pourrait faire des parallèles entre les personnages, parce que Arthur et Luke, finalement, on retrouve cette destinée, ce héros. Voilà, qui
tout simplement
chercher,
parce que Luke Skywalker lui-même, était déjà en partie inspiré par ces personnages de Perceval et voilà. Skywalker, c'est le personnage de Loki dans le Crépuscule des dieux, hein, de Wagner. C'est littéralement celui qui marche dans le ciel, en fait. Les mythes à la fois germaniques et arthuriens, ils ont nourri Star Wars à fond les ballons. On a carrément une table ronde avec le Conseil Jedi dans la prélogie. Donc c'est plus l'inverse, en fait. C'est plus Luke qui imite Arthur, quoi.
Le sabre laser qui évoque Excalibur. On peut faire un parallèle entre Lancelot et Anakin, on l'a déjà dit. Obi-Wan et Merlin. Et puis C-3PO et R2-D2.
Pourrait être Caradoc et Perceval, tu crois, ouais. Oui,
il mange moins. Ouais. Il mange moins. Et puis même les vêtements de Lancelot, notamment dans la saison 4 et la saison 5, ressemblent aussi à des Jedi. Et évidemment, le grand méchant, Méléagan, qui est toujours
un Palpatine,
qui est clairement un Palpatine. C'est ce qu'on retrouve, c'est plus une fonction qu'un personnage, c'est l'ombre, celui qui va aller influencer, qui va tirer les ficelles de loin, qui va chercher à nuire au héros, mais jamais de manière directe, toujours par des stratagèmes, en passant par d'autres personnes.
D'accord. Alors attention, parce que là, les gens que tu es en train de citer écoutent ce podcast. Parce que l'idée que c'est le personnage de Méléagan soit l'ombre, je sais d'où elle vient. Bref. Oui, mais sinon, oui, tout à fait. Mais l'ombre, bon, ça, c'est un concept jungien. Et Jung, c'est aussi quelqu'un qui a été très cité par Joseph Campbell. Enfin, on retourne de toute façon toujours dans ces histoires-là. Et c'est naturel, encore une fois, quand quelqu'un est fasciné par la puissance du récit, de tomber sur cette littérature et sur ces questionnements-là. On l'a bien dit que Astier, bon, au départ, il était préoccupé, effectivement, il donnait l'impression d'être préoccupé par l'idée de faire rire les gens, mais en même temps, il essayait de pousser les murs, quoi, pour dire il y a encore autre chose. Parce que en France, hélas, c'est très très difficile de revenir à la source mythologique. On a un pays qui a un peu coupé notre élan mythologique. Il y a une raison pour laquelle, par exemple, on va tous aller voir Game of Thrones parce que c'est labellisé américain, mais un Français qui personne ne sait que Game of Thrones c'est basé sur les Rois Maudits et qu'on a toujours regardé ça avec un certain dédain.
Auditeurs le sauront s'ils ont écouté notre collection consacrée à Game of Thrones. On en parle dedans.
Et on sait que c'est très difficile en France de faire avancer ces univers mythologiques, ces univers du merveilleux, si on ne montre pas patte blanche, encore une fois, par l'humour et une certaine forme d'irrespect, on va dire, vis-à-vis du mythe. Et c'est ce que Kaamelott a fait dans un premier temps pour essayer de ramener petit à petit les gens vers « mais non, mais en fait, c'est bien ». C'est bien aussi de ne pas en rire, c'est bien aussi de se laisser porter dans ses récits, dans ce merveilleux. Alors certains diront qu'il n'a pas forcément réussi, justement parce qu'une partie du public s'est retournée contre lui sur les deux derniers livres, mais en même temps, il l'a fait, il a osé le faire. Et pour ça, moi, personnellement, je le remercie.
Il l'a fait, et puis au-delà de la série, il faut aussi garder en tête qu'Astier a une vision très globale, très holistique de son œuvre, parce que donc, il compose la musique. On a dit déjà plusieurs fois qu'il était à la fois au scénario, à la réalisation, à la mise en scène, etc. Au-delà de ça, il a des projets annexes qui permettent de faire grandir, donner plus d'ampleur encore à l'univers de Kaamelott. Il y a cette bande dessinée, tout d'abord, parce que c'était pas suffisant, voilà, d'être à la caméra, d'être devant et derrière la caméra, d'être à l'écriture et à la musique. Il est aussi l'auteur d'une bande dessinée qui porte sur l'univers de Kaamelott, qui est dessinée par Steven Dupré, un illustrateur belge qui ne connaissait pas la série avant qu'on lui commande les planches d'essai, mais qui par contre était assez calé en fantasy. Et chaque tome raconte une histoire parallèle au livre 1 dans la série. Il n'y a pas d'ordre chronologique. Il faut le prendre vraiment un petit peu comme ces explorations de donjons aussi. Les aventures mettent en valeur à chaque fois l'effet d'armes des chevaliers. Et donc, tous les albums se terminent par une séance à la table ronde. Ça rentre dans cette vision globale de l'univers de Kaamelott par Alexandre Astier. Et puis, on a aussi ce projet un peu plus mystérieux qui s'appelle Kaamelott Résistance, qui devait être initialement un recueil de nouvelles et qui décrit toute cette période pour laquelle on a un espèce de vide entre la fin du livre 6
Plutôt du livre 5, parce que le livre 6 étant une prélogie. Mais enfin, pardon, t'as raison.
Non, c'est au moment où justement on a fini de voir l'enfance, la jeunesse d'Arthur. Mm-hmm. On retourne au moment où il s'est fait trahir par Lancelot, etc. Et on a un trou de 10 ans où Lancelot a pris le pouvoir. Arthur a volontairement replanté Excalibur dans un rocher, a dit qu'il n'arrivait plus à l'enlever, ce qui est faux, et est parti en fait se cacher quelque part. Et pendant ces 10 années, Lancelot donc fait régner la terreur sur le royaume de l'ogre. Et le film reprend au bout de ces 10 ans où tout le monde attend le retour du roi. Et donc ce projet, Camelot Résistance, est censé combler ces 10 ans. Donc, ça a pu avoir cette forme de recueil de nouvelles. Il y a eu d'autres formats évoqués. Il me semble qu'il y a eu une exposition qui a montré des planches sur le sujet. Pour l'instant, on n'en sait pas plus, mais ce n'est pas un projet qui est mort pour autant.
Non. Et on retrouve encore une fois le rapport à George Lucas là-dedans, puisque la série animée de 2003 et 2004, Clone Wars, était censée faire le gap, enfin expliquer ce qui s'était passé justement entre la fin de l'épisode 2 et le début de l'épisode 3, de la même façon que ce que tu viens de nous dire par rapport à Résistance, puisqu'effectivement, dans le film, comme on le verra, on arrive à la fin de cette résistance.
Alors, qui sait, peut-être qu'un jour, on aura un dessin animé Kaamelott aussi, ou encore des formats différents.
Peut-être un jeu de table, j'espère qu'il nous le fera. Moi, je rêve d'un jeu de table, mais où les règles du jeu seraient écrites par Perceval.
Ah, mais il y a déjà Sloubi pour ça. Bon, je crois qu'on a fait le tour de cette série... cette série très riche.
Oui, après, on pourrait geeker dessus sur 3 épisodes supplémentaires, c'est sûr, mais bon, je pense qu'on a dit l'essentiel et qu'on comprenne bien pourquoi on a choisi précisément de s'arrêter sur une série française comme celle-ci, parce qu'elle est un peu particulière.
Eh bien, Rafik, merci de m'avoir accompagné pour ce second et dernier épisode de notre collection consacrée à Kaamelott.
Merci, Clems.
We Love Series, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes, rendez-vous sur welovecinema.bnpparibas et sur vos applis de podcast. Pour le mois d'août, We Love Series prend des vacances, mais on revient à la rentrée avec de nouvelles séries cultes à décortiquer. Pour patienter, toutes nos précédentes collections sont toujours disponibles si vous ne les avez pas encore écoutées. Bon été.
Salut.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.